Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, en ce moment où sont fréquemment évoqués les rapports entre l'Église et l'État, entre la religion et la laïcité, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur un aspect peu connu de la religion chrétienne, les tiers ordres, grâce à l'ouvrage que M. André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, consacre à ce sujet. M. Damien, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. M. Damien, on sait que vous avez exercé de hautes fonctions dans l'Ordre des avocats, vous avez été bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles. On sait aussi que vous aimez Versailles. J'ai remarqué que nul n'ignore combien vous êtes attaché à cette ville royale. Vous y avez exercé des fonctions politiques en étant maire, puis député des Yvelines et conseiller général des Yvelines jusqu'en 1998. Mais l'on ne saurait oublier que vous avez aussi été chargé des cultes par le ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua, de 1993 à 1995. Et lorsque l'on feuillette la liste de vos œuvres sur le site www.asmp.fr, Académie des sciences morales et politiques, on y retrouve vos trois passions, le métier du barreau, Versailles et ses merveilles et l'histoire religieuse. L'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui s'intitule « Une tentative de naissance d'un laïcat dans l'Église, les tiers ordres ». Il est publié par l'imprimerie François Paillard à Abbeville dans la Somme. Ma première question sera toute simple. Monsieur Damien, qu'est-ce qu'un tiers ordre ?
Eh bien, un tiers ordre, à aujourd'hui, est une association de piété et de spiritualité qui réunit des laïcs sous la mouvance d'un ordre religieux illustre et célèbre. Mais les tiers ordres, à l'origine, c'est la grande révolution dans l'Église, c'est l'entrée du laïcat, c'est-à-dire de ceux qui sont les petits, les obscurs, les sans-grades, à l'intérieur d'un monde peu à peu tellement cléricalisé que les fidèles n'y ont plus de place.
Alors cette époque, c'est 12e siècle ?
C'est ça. L'Église primitive est peu différenciée entre les apôtres, ceux qui ont les diacres qui distribuent les provisions et ceux qui ont le don de prophétie, puisque c'est ainsi que les mentionne saint Paul, il n'y a pas de différence entre, sauf que les fonctions sacerdotales, celles que le Christ a exercées pour donner ses sacrements, sont passées aux apôtres, à leurs successeurs et à ce qu'on appelle aujourd'hui les prêtres. Mais très vite, les laïcs sont en pleine décadence. On les rejette un peu parce qu'ils sont peu instruits, sans savoir, sans avoir, sans particulière notoriété, et ils deviennent un espèce de résidu de l'Église qui se caractérise par le célèbre mot du grand canoniste Gratien, « Duo sunt genera Christianorum », il y a deux catégories de chrétiens, d'une part ceux qui se consacrent à Dieu, sacerdoce
Et
vie religieuse, et puis les autres. Les autres qui ont le droit de dirimer leurs querelles en justice, qui ont le droit de faire du commerce, qui ont le droit de manger gras certains jours, qui ont le droit d'user du mariage, alors que tous les autres sont un monde de célibataires.
Donc on a deux mondes chrétiens, religieux et un laïc.
Et le monde laïc est vraiment complètement en décadence, puisqu'il n'a pas de... Il n'a pas d'existence légale.
C'est d'ailleurs en vous lisant que je me suis demandé pourquoi un juriste comme vous pouvait s'intéresser aux laïcs dans l'Église, mais c'est parce qu'au fond c'est une question de statut juridique. Quel est leur statut dans l'Église ?
C'est ça la question. C'est une question de statut juridique, c'est une question d'existence. L'Église a failli, parce qu'une construction purement ecclésiastique, louper ceux pour lesquels elle avait été faite, c'est-à-dire les fidèles. Et alors, il y a eu une révolution qui se produit au début du XIIIe et qui va aboutir aujourd'hui à quelque chose de très moderne. Et un de mes jeunes amis vient de faire une thèse sur pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction dans l'Église que l'Académie des sciences morales a primée lors de son dernier concours. C'est la thèse de Laurent Villemain qui est parue aux éditions du CERF. Et c'est vraiment tout ce problème. Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Le pouvoir d'ordre, c'est celui des prêtres. C'est le pouvoir qui permet la collation de la grâce par le prêtre in persona Christi. C'est-à-dire c'est le Christ lui-même à travers lui qu'il donne. Et puis vous avez la pouvoir de juridiction, le pouvoir de juridiction qui est accordé, reconnu au seul clergé aujourd'hui, mais qui n'a aucune raison. Car il ne s'agit pas du sacrement. Donc on peut très bien avoir des juges laïcs, peut très bien avoir des gens qui s'intéressent aux œuvres et qui soient des laïcs. Malheureusement, dans l'Église, on n'aime pas beaucoup ça. Et voilà. On veut en faire une affaire de curé et les autres restent derrière la lisière.
Alors comment ces gens qui vivent dans les tiers ordres, est-ce que ce sont eux qu'on appelle les tertiaires?
Oui.
Alors comment vivent-ils justement?
Ah ben, ils vivent comme tout le monde.
Voilà, mais ont-ils droit de participer par exemple, franchir les clôtures dans les monastères?
Non, absolument pas. Ils ont le droit de s'agréger à un groupe qui est dirigé sur le plan spirituel par un père de l'ordre qu'ils ont choisi, franciscain, dominicain, carme, et ou même oblature bénédictine. Et puis, ils ne portent pas de costume, ils n'en ont plus qu'une réduction, c'est un petit scapulaire qui porte sur la peau s'ils le désirent. Et puis, ils ont une règle, des prières communes à effectuer tous les jours, pas communes, des prières habituelles à exercer tous les jours, un office, mais c'est tout. Mais le grand moment, c'est la révolution du laïcat au XIIe siècle qui explose de tous côtés, car le laïcat est devenu le résultat d'une société civile en pleine évolution, les marchands, et les marchands ne sont plus des pauvres paysans qui, avec
un culte, oui.
Et les marchands
ils
sont devenus intelligents, ils savent absolument, et c'est une civilisation qui va s'épanouir au temps des Médicis, de Venise, etc. Et alors ces laïcs explosent sur le plan de l'Église aussi. Et ils explosent à travers un mouvement révolutionnaire qui va avoir un aspect hétérodoxe. Ce sont les Bégards, les Vaudois, les Humiliés Lombards, etc.
Humiliati, oui.
Voilà.
Ça, oui.
Et puis il y a un mouvement régulier qui, lui, est tout aussi brûlant et chaud, mais qui reste dans la mouvance de l'Église, c'est Saint François d'Assise. Et Saint François d'Assise, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas fondé
un ordre.
Voilà. Il a rassemblé un tiers ordre, c'est-à-dire avec des gens mariés, des gens qui se livrent à des affaires, des gens qui sont pauvres, des gens qui ont une vocation à cette pauvreté universelle qui est la marque de l'Église en ce temps-là. Et ces laïcs vont peu à peu se séparer comme l'huile et l'eau se séparent quand on les laisse reposer et vont donner d'un côté un ordre de prêtres, sont les franciscains, les capucins, oui. Et tous ces ordres. Deuxièmement, un ordre religieuse, toutes les religieuses
moniales.
Clarisse,
oui.
Etc. Et enfin, le tiers ordre, c'est-à-dire les laïcs qui restent en dessous ou en dessus, comme vous voudrez, et qui va devenir le tiers ordre. Mais le tiers ordre n'est que la forme abâtardie, édulcorée, d'un espèce de mouvement violent et vigoureux, dû à ce que le père Mandonnet appelait la puissance d'affinité du début du Moyen-Âge.
C'est-à-dire les gens qui se regroupent,
ils ont besoin d'être ensemble, et ils deviennent des confréries, deviennent des groupes de commerçants.
Des corporations,
les avocats,
de métiers.
Les avocats sont une confrérie. Et c'est pourquoi le bâtonnier s'appelle bâtonnier, c'est parce qu'il a le bâton du prieur de la confrérie. Donc tout ce petit monde s'est peu à peu épanoui. Et alors, l'Église a eu très peur.
Mais l'Église a dû s'en méfier parce que c'était source d'hérésie, tout ça.
Alors, elle a eu très peur. C'était source d'hérésie, source de disputes.
De déviance.
Alors, elle s'est servie d'abord de quelques coups de crosse bien placés qui ont remis un peu ce petit monde. Ça s'est produit chez Franciscain avec l'excommunication d'Élite Corton. Et puis, elle s'est servie des Dominicains, ordre de chanoine, beaucoup plus
oui,
classique,
rigoureux.
Pour créer un tiers ordre, beaucoup plus classique. Mais c'est bien une branche.
Et qui s'est appelé comment, alors?
C'était à l'origine l'Ordo de Penitentia,
voilà.
Et puis ça s'est appelé ensuite le tiers ordre dominicain.
Ça n'a pas gardé le mot de pénitence, parce que le mot pénitent, est-ce que justement...
Alors, le mot de pénitent,
est-ce que les pénitents sont des gens des tiers ordres?
Non, mais c'est l'origine. N'est-ce pas? Les pénitents publics, parce qu'ils avaient fait des péchés, ou les pénitents qui voulaient mériter plus en s'infligeant des pénitences, telles que les pèlerinages, des privations, etc., ont été finalement extrêmement proches, et en sont dans les ancêtres, de cet ordre laïque dont j'ai parlé, dont nous avons parlé tout à l'heure, dont va sortir les tiers ordres. Et les dominicains, avec leur légalistes vis-à-vis du pouvoir pontifical vont essayer de lancer un tiers ordre plus classique avec leur sainte, leur grande sainte,
Catherine,
qui est maintenant voilà, docteur
dont vous
de
parlez
l'Église,
beaucoup dans votre
Sainte Catherine de Sienne, que j'ai bien découvert à travers les travaux de Fautier, le membre de l'Institut, et Canet, qui ont publié vers les années... c'était un vœu qu'avait fait Fautier dans le camp de concentration où il était, de faire un livre sur Sainte Catherine. Et il l'a fait avec sa liberté d'esprit. Alors Sainte Catherine de Sienne est une vraie laïque. Une vraie laïque, elle est...
Donc ce n'est pas une pas religieuse...
Elle vit chez elle, elle vit dans la pénitence, certes, et le recueillement, mais elle vit chez elle, elle fait des voyages, elle va voir le pape à Avignon.
Et elle écrit à la terre entière, non?
Elle écrit à la terre entière, c'était un grand écrivain. Et finalement, plus que Madame de Sévigné. Et finalement, eh bien, on en fabrique, grâce à son confesseur, qui doit s'appeler Caffarini, si ma mémoire est bonne,
oui.
On en fait une bonne sœur.
Oui, c'est vrai, j'ai toujours pensé qu'elle était bonne sœur.
Alors qu'en réalité, c'est une vraie laïque, mais pieuse. Mais les laïcs doivent être pieux.
Alors avec André Damien, nous évoquons son ouvrage « Une tentative de naissance d'un laïcat dans l'Église, les tiers-ordres ». Et donc ces tiers-ordres sont maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Les franciscains, tiers-ordres franciscains?
Il reste sept tiers-ordres, je crois. Les franciscains, les dominicains, les carmes, les servites de Marie, l'oblature... puis il y en a encore deux.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous nés au XIIIe siècle.
Ah
il y en a quelques-uns qui sont nés au XVIe, XVIIe.
Au XVIe, XVIIe. Oui. Une fois, et qui, ce sont des confréries pieuses aujourd'hui, qui avaient un statut dans le code de droit canon. On ne parle plus des laïcs, avec l'encyclique du pape Christi Fidelis Laici, où il y a tout. Mais ces tiers-ordres sont intéressants à la période moderne, parce qu'à partir du milieu du XIXe siècle, les laïcs, l'Église va essayer de les utiliser. Elle a perdu le pont, et par la Révolution, avec le peuple. Donc elle va essayer de reprendre. Alors, en 1849, le pape Pie IX reconstitue les ordres de chevalerie autour de Jérusalem, et c'est ainsi qu'il reconstitue l'ordre du Saint-Sépulcre.
Donc vous êtes, je crois,
le lieutenant pour la France. On reconstitue également le tiers-ordre franciscain vers 1820, par là. Le tiers-ordre dominicain, c'est la cordère qui le remonte, et tous ces tiers-ordres reprennent vie spirituelle, oui. Plutôt. Et le pape Léon XIII est extrêmement épris des tiers-ordres, puisqu'il va jusqu'à dire, au moment de ses grandes réformes sociales, Rerum Novarum, il va jusqu'à dire, ma réforme sociale, c'est le tiers-ordre. Et il a des gens éminents, Léon Armel, c'est l'industriel du Val-des-Bois, qui applique la doctrine sociale de l'Église, notamment qui découle de la collection familiale un siècle avant tout le monde, ce sont des tertiaires. Alors, ces tiers-ordres vont se mélanger un peu avec l'action catholique, avec tous ces mouvements dont on disait méchamment qu'elle était le tiers-ordre jésuite, l'action catholique, parce que... Ça
oui, mais c'est toujours la vieille querelle entre les jésuites,
donc les jésuites
et les mendiants,
rien. Du
et
coup,
les prêcheurs.
Ils sont fabriqués un tiers-ordre dont les gens disent c'est l'action catholique. Alors, l'action catholique des hommes était importante, et aujourd'hui, vous avez quelque chose de nouveau, cette volonté marquée par le pape dans Christi Fidelis Laici, que les laïcs s'impliquent dans la gérance des affaires du monde dont ils sont les spécialistes.
Est-ce qu'on a le droit de dire « il est temps »
Oui,
bon,
il est temps.
Et surtout pour nous les femmes en plus, on veut en faire partie
oui,
aussi.
Oui, beaucoup plus.
Je rappelle, Monsieur Damien, en vous remerciant d'être venu sur Canal Académie, le titre de votre ouvrage, « Une tentative de naissance d'un laïcat dans l'Église, les tiers-ordres », paru aux éditions François Paillard à Abbeville, dans la Somme. Votre ouvrage, je le précise, n'est pas destiné à des gens qui voudraient s'initier à la question, mais plutôt à ceux qui voudraient l'approfondir, car il va extrêmement loin dans le détail, justement, du statut juridique de ces tiers-ordres et de ces personnes qui vivent ainsi un aspect peu connu de la pratique chrétienne. Merci, monsieur.
Merci.
Vous écoutez Canal Académie.